9h10, on n'a pas besoin d'insister sur le fait que l'univers du cinéma, depuis presque un an, est complètement chamboulé, avec des salles fermées qui vont rouvrir progressivement, avec bien sûr un cadre sanitaire à respecter, mais donc les cinéphiles ont hâte de retrouver leur salle, leur film. Et ce matin, il y a un film qui va finalement prendre l'affiche le 5 mars. C'est le film de Philippe Falardeau, très attendu d'ailleurs, qui a commencé, à rouler un peu dans le monde, notamment en Australie, Mon année Salinger. Philippe Falardeau, bonjour.
Bonjour.
C'est vrai que ça n'a pas été une année facile, c'est pas une sortie de film classique. Comment vous avez vécu ça avant qu'on parle du film, là, tous ces reports et, disons, dans ce contexte de pandémie?
J'étais un des rares privilégiés à pouvoir au moins avoir une première... normal ou presque à Berlin. Il y avait 2200 personnes dans la salle. Je pense pas que je vais revivre ça de si tôt. C'était assez festif. J'ai dû serrer 800 mains cette semaine-là. Et si ça se trouve, c'est peut-être moi qui ai ramené le coronavirus au Canada. Mais au moins, j'ai eu la chance d'avoir une vraie première. Ce qui était bizarre après, c'est de un an plus tard que le film soit toujours pas sorti. J'ai même fait savoir, moi, entre-temps, au distributeur, que j'étais pas contre une sortie en VSD, là, sur demande, dès le mois de mai ou juin, sachant que les gens étaient confinés, qu'il y avait une demande pour ça. On a patienté. C'était supposé sortir en octobre, ensuite en décembre, mais là, c'est vrai, là, ça sort en mars. Et même si on refermait les salles, ça sortirait... sur plateforme numérique de toute façon.
Bien, ben parlons du film justement qui raconte, là je résume rapidement là, l'histoire de cette jeune femme qui a de grandes ambitions littéraires et qui quitte sa ville pour s'en aller à New York et qui se retrouve dans cet univers des grandes agences, des agents littéraires et notamment ce personnage très puissant là, qui est incarné par Sigourney Weaver. Qu'est-ce qui vous a amené à aller là, raconter l'histoire, donc de nous amener dans un univers de littérature?
Ben en fait, ça aurait pu être un autre univers. Ça donnait que c'était c'est basé sur des mémoires. Puis la jeune femme, ce qu'elle a vécu, c'était l'univers de la littérature. Mais moi, je m'identifiais à ce moment-là dans notre vie où on a début vingtaine, on a des rêves, des aspirations. On n'est pas très sûr d'avoir les moyens de les réaliser. On se trouve une première job puis on pense des fois que c'est la bonne. Moi, j'ai travaillé... Je me suis identifié à ça parce que plus jeune, je travaillais pour un organisme de lobbying à Ottawa, la Fédération des francophones hors Québec. J'aimais ça. Je pense que j'étais pas si pire dans mon travail et j'avais de l'ambition, mais je me disais, je pense que je suis pas du bon côté des choses. Finalement, j'ai continué mes études, puis par une série de rebondissements, j'ai abouti en cinéma. Et donc, je me suis identifié à cette histoire-là où début vingtaine, on sort de l'école, on a des rêves, mais on n'est pas encore très sûr de d'où on s'en va. Donc, je pense que le milieu littéraire, ça donnait que c'était son milieu à elle, que je trouvais intéressant parce que je suis un amoureux de la littérature aussi. Le New York des années 90 m'intéressait aussi, mais au final, je pense que les gens peuvent trouver leur compte s'ils s'identifient à cette période-là de notre vie, qui, en rétrospective, était angoissante un peu, mais probablement aussi parmi les plus belles années de nos vies.
Mais justement, quand on arrive, vous le dites, dans les années 90 à New York, puis sans doute encore vrai aujourd'hui, là, de quitter sa ville natale, de se retrouver le plus près possible de ce qu'on cherche comme objectif, c'est-à-dire œuvrer dans ce milieu-là, c'est aussi l'endroit où la compétition est forte. Les gens sont sévères, il y a des amitiés qui tombent, puis d'autres qui surgissent.
Oui, puis je ne sais pas c'est quoi le rapport que les gens ont avec leur premier patron, et parfois on a des rapports difficiles et conflictuels, puis ça aussi, je pense qu'en rétrospective, on se rend compte que on avait des mentors qui nous ont outillés pour les années à venir. Effectivement, des amitiés d'enfance avec qui on avait fait des pactes à vie, à la vie, à la mort, et on se rend compte en devenant jeune adulte qu'on partage plus tout à fait les mêmes aspirations. Donc, ce sont tous des rites de passage, en fait, au passage adulte qu'on vit à différents degrés. Il y avait autre chose, moi, qui m'intéressait aussi, c'est que cette jeune fille-là a travaillé pour une agence qui représentait un auteur très, très connu, ouais. Salinger, et qui était un peu un reclus comme notre Régent du Charme, sauf qu'il a vendu 60 millions de livres. Donc, c'est un phénomène assez mythique. Et elle devait lire tout le courrier qui était adressé à Salinger et que lui ne voulait pas lire. Et elle devait renvoyer une réponse très générique disant « On s'excuse, mais M. Salinger n'est pas intéressé à lire son courrier ». Et moi, ça m'a touché parce que cette femme-là a dit « Non, je peux pas faire ça, c'est un peu inhumain ». Et elle s'est mise à répondre aux fans de Salinger. Et moi, plus jeune, j'ai écrit à une jeune cinéaste qui m'a répondu. J'étais pas du tout, j'étudiais en relations internationales, je savais absolument pas que j'étais pour faire des films. Et ça m'avait beaucoup touché le fait qu'elle m'a répondu. Puis je pense que ça l'a influencé un petit peu mon parcours par la suite. Après ça, j'ai fait la même chose avec d'autres cinéastes comme Bertrand Tavernier là, et j'en passe. Et puis ces gens-là m'ont toujours répondu. Puis je pense que j'ai été très touché par cette dimension de l'histoire-là où cette femme se disait quand quelqu'un crée, que ce soit un film ou un livre, et que ça touche des gens et que les gens ont envie de communiquer avec l'auteur, mais que là, tout d'un coup, il y a une agence littéraire qui fait barrage. Qu'est-ce qu'on bloque dans la vie des gens quand on empêche une communication comme ça? Puis ce qui est fascinant, c'est qu'à l'époque, c'était du vrai courrier, là, c'était des vraies lettres.
Ouais.
Comme aujourd'hui, on peut écrire à nos idoles sur Instagram ou Facebook, et on a l'impression qu'ils nous répondent, mais c'est probablement des publicistes qui nous répondent.
Mais depuis que vous faites des films, c'est intéressant le volet là, de cette correspondance avec d'autres réalisateurs. Vous vous retrouvez sur un plateau donc à diriger quelqu'un comme Sigourney Weaver. Je me souviens, j'étais étudiant en Sciences Po, puis on voyait René Lévesque, puis du jour au lendemain, tu te ramasses face à lui en entrevue, puis tu lui poses des questions. C'est comme assez déstabilisant. Comment vous vivez ces moments où vous vous retrouvez sur des plateaux face à des gens que vous avez vus au grand écran, que vous avez peut-être admirés, puis vous dites là, ils sont dans mon film, puis c'est moi qui est en train de les diriger?
Bien, le moment un petit peu anxiogène, c'est quand on les rencontre pour les premières fois. En anglais, ils ont une belle expression, là, starstruck. J'étais vraiment intimidé de rencontrer Sigourney Weaver. Je me souviens, j'avais pris l'avion le jour de ma fête pour aller la voir à New York. Et puis, j'étais très nerveux. Puis là, j'essayais de me faire toutes les conversations possibles dans ma tête et tous les carrefours possibles de questions et de réponses. Et quand elle est arrivée, d'abord, elle s'est excusée pour être en retard. Elle était 5 minutes en retard et ça, les stars, habituellement, ne s'excusent pas quand ils sont en retard. Deuxièmement, elle m'a parlé en français. Alors, j'étais totalement sous le charme. On s'est mis à parler de son prochain voyage en Hawaï, du fait que son mari faisait du surf, qu'elle faisait du ski nautique. Et là, la nervosité est tombée, puis après ça, ben, on a commencé à parler du film, du travail. Si bien que lorsque vient le temps de la diriger, on a déjà une relation, on a déjà des répétitions derrière le corps, et là, ça devient une relation de travail normale entre gens qui aiment le cinéma, tout simplement, et qui font les meilleurs efforts possibles pour faire le meilleur produit possible.
Est-ce qu'il faut être audacieux pour faire un film qui porte, et je comprends que ça peut être dans plusieurs milieux, mais quand même, qui porte sur les années 90 sur le monde littéraire?
C'est ce que mon producteur m'a dit quand j'ai lu le livre. J'ai dit, lis ça, j'aimerais ça faire un film avec ça. Il dit, t'es sûr? Mais je sais pas. Monsieur Lazare, c'est un peu la même affaire. C'était basé sur une pièce de théâtre où il y avait une seule personne sur scène et j'avais dit au producteur, je veux faire un film avec ça. Il m'a dit, t'es sûr? En fait, c'est des rencontres. Puis j'ai été touché par cet univers féminin-là aussi. Cette relation entre deux une jeune femme et une femme établie, puis j'avais jamais fait de film du point de vue de personnage féminin. Donc, pour moi, la littérature était un peu en arrière-plan. Sauf que j'ai dû me creuser la tête pour trouver des manières de conférer certaines choses qui sont de l'ordre de littéraire. Des gens qui écrivent à Salinger, je pouvais pas avoir un personnage qui lit des lettres tout le temps à voix haute, ça aurait été assez rébarbatif. Donc, J'ai inventé un univers un peu onirique autour de ça qui s'apparente au cinéma. My Salinger Year est un film doux, un film léger. C'est pas un film où il y a une grande tension dramatique, mais si quelqu'un j'appelle ça une visite avec une promenade du dimanche avec un personnage.
Oui, puis quelqu'un qui est, je pense à cette jeune femme passionnée, puis en même temps, quelqu'un qui a l'air... l'agent littéraire austère, très sévère, puis qui, progressivement, on le découvre dans le film, a de grandes qualités, puis va devenir un modèle pour la jeune femme en question.
Tout à fait. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a développé. C'était pas tout à fait dans le livre, puis je l'ai développé un peu au scénario, puis Sigourney a fait le reste du chemin. Elle ne voulait pas d'un personnage unidimensionnel qui aurait fait rire au début parce qu'elle est une boss très rigide qui ne veut pas avoir d'ordinateur, qui ne veut pas entendre parler d'Internet, alors que Internet prenait son essor dans les années 90. Et ça aurait été un personnage, c'est ça, un peu unidimensionnel. Ben on a amené une courbe dramatique là aussi. Et ça me touche aussi. J'ai eu des mentors, moi, dans la vie, un premier, justement, à Ottawa, en politique, qui pensait que j'aurais une carrière de politicien. Après ça, Jacques Godbout, avec qui j'ai travaillé à l'ONF, il m'avait pris sous son aile, puis à un moment donné, il a continué de m'offrir des trucs, puis j'ai dit, ben non, j'aimerais ça faire mes propres trucs. Mais c'est un peu ça, un peu l'évolution normale, quand il faut aussi dire merci aux mentors, mais on veut voler nos propres ailes.
Philippe Falardeau, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci infiniment.
Au revoir. Philippe Falardeau, le film Mon année Salinger, sorti en salle le 5 mars.